Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Pourquoi est-il si urgent de renouer avec l'art d'improviser ? Cette liberté naturelle dont use l'enfant est-elle bridée au fil de nos apprentissages ? Improviser, est-ce s'adapter aux événements et, d'une certaine façon, renouer avec les autres et avec soi-même en dépassant la peur de l'inconnu ? Autant de questions que nous allons aborder avec le trompettiste Ibrahim Malouf, que nous avons joint par téléphone, coronavirus oblige. Dans son livre « Petite philosophie de l'improvisation », publié aux éditions Équateur, il puise dans sa double culture française et libanaise pour nous faire partager ses expériences sur scène, dans ses cours auprès de ses élèves et dans la vie. Un entretien enregistré par le réalisateur fétiche de l'émission, Mathias Golshani, à réécouter sur notre site RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Bonjour Ibrahim Malouf.
Bonjour Éric Bataillon.
Musicien, compositeur, producteur, vous signez ce livre « Petite philosophie de l'improvisation » aux éditions des Équateurs, collection Mister IB. Ibrahim Malouf, qu'est-ce qui a déclenché chez vous la nécessité d'écrire ce livre ? Est-ce le décès de votre grand-mère ? Est-ce la naissance de votre fils ? Ou bien la situation sanitaire que nous traversons actuellement ?
Mais je pense que c'est beaucoup de choses, dont tout ce que vous venez d'évoquer. Et puis peut-être en prenant un peu de recul, globalement, j'ai l'impression d'être témoin aujourd'hui à notre époque d'une forme de délitement total de notre capacité à dialoguer. Et c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup, qui m'inquiète pour les générations de demain. Et mon expérience dans la musique, en tout cas, m'a amené à croire qu'il y avait peut-être quelques propositions à faire, qu'on était tous un peu responsables de cette situation et qu'il fallait, qu'on puisse trouver tous, qu'on puisse au moins proposer des solutions, des idées pour améliorer cette situation. Et ce livre, c'est vraiment ça, c'est ma contribution.
Vos deux parents, Ibrahim Malouf, sont tous les deux musiciens. Votre père, trompettiste, votre mère, pianiste. Quel type d'enseignement musical avez-vous reçu ?
Évidemment, j'en parle beaucoup dans ce livre parce que c'est fondamental, je pense, dans ma perception que j'ai des choses. J'ai deux éducations. Du côté de mon père, une éducation musicale très stricte, très rigide, très pointue et très attachée au code et à la virtuosité, et au travail, à la technique et à la connaissance musicale, etc. Et puis d'un autre côté, j'ai eu, alors je ne sais pas si je peux dire que c'est une formation, mais j'ai eu une maman pianiste qui m'a toujours dit et qui m'a toujours encouragé à improviser, à m'amuser sur le piano. Peut-être que c'était pour contrebalancer parce qu'elle me voyait lutter et travailler dur avec mon père à la trompette alors que j'étais encore très jeune et elle se disait peut-être que ce n'est pas nécessaire en plus d'ajouter une formation de pianiste trop poussée. Et donc elle m'a laissé vraiment m'amuser sur cet instrument. Et je suis persuadé que c'est cette combinaison des deux enseignements, ou en tout cas des deux formations, l'une très scolaire, très précise, très codifiée, et l'autre complètement autodidacte, qui fait qu'aujourd'hui j'aime la musique à ce point et j'en pratique beaucoup.
Justement, autre souvenir d'enfance que l'on retrouve dans votre livre, vous notez que vos parents parlaient arabe entre eux et que vous-même parliez très mal le français étant petit. La musique a-t-elle été un refuge pour vous ?
Oui, évidemment, la musique, lorsque j'arrive tout petit, hein, on arrive en France, je suis tout bébé, mais à la maison, on parlait que libanais, que arabe. Et donc, quand j'arrive à l'école à l'âge de 3, 4 ans, 5 ans, je découvre la langue française. J'entends des gens parler une langue que je ne comprends pas. Et donc, forcément, je suis un peu dans mon coin. Et comme la musique est partout dans la maison et qu'on en écoute tout le temps, et que mes deux parents sont musiciens, et que vraiment la musique est une sorte de langage dans lequel on baigne tout petit à la maison, forcément, quand je suis à l'école et que je ne comprends pas ce qu'on me dit, ben, je suis là, je chantonne, comme ça, dans la cour. Et puis progressivement, j'ai fini par apprendre à parler français de manière très, très, très progressive à l'école, grâce à mes petits copains et copines. Mais au début, la musique, heureusement qu'elle est là.
Oui, vous dites que vous fredonnez sans cesse, vous venez d'ailleurs de le faire, et que vous aimez sentir votre instrument murmurer. Pour vous, la musique est-elle d'abord un voyage intérieur, un voyage personnel ?
Oui, mais après, je pense que nous sommes fondamentalement faits pour vivre les uns avec les autres, pas pour vivre en autarcie. Je pense que le monde est fait comme ça. Et quelque part, la musique fait partie de ces langages qui sont là aussi pour communiquer avec les autres. Et j'y crois beaucoup à ça. Et donc, je pense que c'est à la fois un langage très personnel et c'est quelque chose qu'on développe soi-même en accord avec soi-même et une expression de soi. Mais en même temps, une expression de soi, pas juste pour s'exprimer et être complètement auto-centré sur son expression personnelle, mais pour s'exprimer, pour être en capacité de dialoguer avec l'autre.
Vous écrivez également qu'enfant, avec votre sœur, vous écoutiez beaucoup de styles de musique différents. De surcroît, d'ailleurs, votre père vous chantait des airs arabes, byzantins, grecs, syriaques, religieux. Est-ce cet éclectisme qui soutient aujourd'hui votre art de l'improvisation ?
Je pense en tout cas que ça contribue grandement à l'idée que j'ai de la musique et de la culture, qui est que c'est un langage, oui, universel, pour reprendre l'expression habituelle. Si vous voulez, on peut utiliser l'expression « la musique est un langage universel » dans deux sens. Le premier sens, c'est de dire « lorsque j'exprime une musique, tout le monde peut la comprendre ». Mais il y a une autre chose aussi, de le voir dans le sens inverse. C'est de considérer que n'importe quelle musique, on peut se l'approprier et faire partie de la culture de cette musique-là. Si vous voulez, d'une certaine manière, c'est comme ça que je vois les choses. Et quand j'écoute des musiques qui n'ont rien à voir avec ma culture maternelle ou ma culture d'adoption même, et que je m'en inspire et que j'aime cette musique, c'est en fait une manière pour moi de participer à la culture du monde. Je vous donne un exemple simple. Vous citiez tous les styles de musique que mon père nous chantait ou nous jouait à la maison. Dans le livre, je raconte aussi, par exemple, et alors que nous venons d'une culture chrétienne orientale, puisqu'on est chrétien du Liban à l'origine, mais mon père nous chantait souvent des chants religieux musulmans et nous mettait des enregistrements de Mouazine qui chantait les prières musulmanes. Et pourtant, c'est pas du tout notre culture musulmane. Et cette ouverture d'esprit-là, c'est ce qui nous enchante dans la vie. C'est pour ça que je prends ce terme, parce que c'est un terme musical, mais c'est ce qui nous enchante, c'est ce qui nous permet vraiment de se comprendre les uns les autres à travers nos cultures, grâce à un langage qui nous permet de se comprendre les uns les autres, qui est la musique.
Dans les conservatoires Ibrahim Malouf, on apprend la rigueur de l'interprétation, on façonne les musiciens suivant des critères stricts. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes abandonnent leur instrument au sortir de l'adolescence, alors même qu'ils disent qu'ils l'aimaient. Trop dur, pas assez amusant, c'est ce qu'ils disent. Vous-même, comment procédez-vous dans vos cours ?
Moi, ce que j'essaye de retrouver, c'est l'essence même du plaisir de faire de la musique. Quand j'étais petit, les gens me disaient « Ah, Ibrahim, tu joues de la trompette ? Tu vas jouer de la trompette ?» Moi, je disais « Oui, 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 je vais jouer de la trompette. » Mais sauf que le jeu, véritablement le jeu, n'a pas beaucoup existé, en fait. Un peu comme si on m'avait menti, en fait, un peu. On m'avait dit que je jouais de la musique, sauf que ce terme qu'on utilise de manière tout à fait anodine maintenant, il n'existe plus pour énormément de gens dans les conservatoires, dans les écoles. Ils ne s'amusent plus, ils ne jouent plus, ils travaillent leur instrument. Or, pour moi, la musique, avant tout, consiste à un grand jeu culturel très agréable, très sympathique et qui peut éventuellement être poussé vers de la virtuosité si on a développé des capacités spécifiques qui nous permettent de se dire qu'on pourrait devenir concertiste ou je ne sais quoi. Mais à la base, c'est avant tout s'amuser, en fait. C'est comme le sport, finalement. Et donc, moi, c'est ça que j'essaie de faire avec mes étudiants, de faire en sorte qu'ils puissent s'amuser en travaillant.
Justement, est-ce que bon, dans le jazz, dans le rock, dans le rap, on improvise beaucoup. Est-ce qu'on peut improviser en musique classique ?
En fait, on improvise dans toutes les musiques du monde, dans toutes les musiques du monde, et même dans la musique classique, on improvisait énormément jusqu'à il y a à peu près un siècle et demi. Et depuis, en fait, la musique classique s'est un peu sanctuarisée. Et c'est tellement devenu quelque chose de sacré, d'intouchable, qu'il ne faut et qu'il ne fallait, qu'il ne faut plus toucher, abîmer, transformer. On n'a plus le droit de jouer Mozart de telle ou de telle manière. Il faut le jouer seulement comment ça se jouait à l'origine. On n'a plus le droit de jouer Beethoven de telle ou de telle manière. Tout doit être joué précisément, exactement comme il l'est enseigné dans les conservatoires, etc. Et donc on a perdu cette notion du jeu, encore une fois, et cette improvisation qui permet justement de s'amuser et de jouer a complètement disparu, sauf évidemment quelques exceptions. L'orgue, par exemple, est un instrument où on a continué à improviser. Il y a évidemment dans la musique classique des gens qui sont des sortes de combattants et qui se battent contre les dogmes de la musique classique. Et c'est quelque chose qui existe de plus en plus dans le jazz aussi. Hein. Malheureusement, depuis quelques temps, depuis quelques décennies, il existe dans le jazz aussi une sorte de culture, de la sanctification, je ne sais pas comment dire, de la culture du jazz. Et on entend des voix qui disent « Attention, le jazz, ça se joue comme ci, pas comme ça, etc. etc. »
Orient Hebdo sur RFI.
Ibrahim Malouf, à un moment de votre récit, vous écrivez que l'improvisateur procède, c'est très joli, à saut et à gambade. L'improvisation, est-ce que c'est l'imagination au pouvoir ?
C'est l'imagination, mais attention, c'est pas n'importe quoi non plus. Improviser, ça veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut pas dire simplement se balader à saut et à gambade, je prenais cette expression, mais de manière insouciante. Vous voyez, il y a ce côté-là. Mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas que l'insouciance. Dans l'improvisation, il y a de la virtuosité. Dans l'improvisation, il y a de la culture à faire vivre. Mais l'essence même de l'expression artistique doit naître de l'improvisation. Elle doit naître de la créativité. Et c'est pour ça que si on ne se balade pas, si on ne cherche pas de nouveaux chemins, si on n'essaye pas de trouver de nouveaux sillons, on n'invente jamais rien. Et ce serait triste. L'exemple que je donne sur l'interprétation d'œuvres. Imaginez, par exemple, que Jean-Sébastien Bach revienne aujourd'hui, après plusieurs siècles, et nous écoute jouer Jean-Sébastien Bach. Vous imaginez ? Il va nous regarder bizarrement, il va nous dire « Mais ça fait 3 siècles, 4 siècles que vous jouez exactement la même chose de ce que j'ai écrit. Mais vous n'avez pas d'imagination, vous ne pourriez pas jouer ça différemment, vous ne pouvez pas vous amuser comme moi je m'amusais. » C'est ça que j'imagine en fait.
Improviser pour vous, est-ce s'adapter aux circonstances, comme disait votre grand-mère ?
Ben, c'est s'adapter. Ouais, c'est s'adapter, c'est apprendre à s'exprimer à travers ce qui se passe autour de nous. C'est ne pas avoir d'idée. Enfin si, on peut avoir une idée de départ, mais c'est ne pas être borné à être bloqué, si vous voulez, par les codes. Donc c'est forcément s'adapter. Et le monde d'aujourd'hui nous le prouve encore aujourd'hui avec ces différentes crises, avec ces complications du monde. Ce monde nous apprend à quel point il est important de savoir s'adapter. Et j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas. Et c'est ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que la solution pour beaucoup de gens qui sont perdus, qui ne savent plus s'adapter, qui ne savent plus s'adapter aux codes de demain, qui ne savent plus les réinventer, c'est une sorte de peur et de repli sur soi et de dire finalement, il y a 100 ans, ils avaient raison. Il faut retrouver les solutions dans le passé. Il faut retrouver des modes de vie qui ressemblent à comment on vivait il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans. Et je trouve ça très triste, évidemment.
Au contraire, vous voulez faire de l'improvisation une philosophie de vie, finalement.
Mais c'est ça, c'est cette passion-là que j'ai pour la musique et pour l'improvisation dans la musique qui me fait évoluer chaque jour. Hein. C'est une expérience de la vie, hein, donc je n'ai pas tout appris, mais j'ai ce sentiment en tout cas que c'est une des propositions qui peuvent nous aider véritablement à vivre les uns avec les autres, avec nos différences, et pas malgré nos différences. Ne pas avoir à tolérer l'autre, mais à l'accepter. Ne pas avoir à subir quelque chose qui ne nous va pas, mais apprendre à comprendre pourquoi cette autre culture peut être un vrai plus pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. Et ça peut être dans l'intergénérationnalité aussi, la différence d'âge. Moi, il y a quelque chose qui me choque beaucoup, par exemple, c'est le manque de respect qu'on a pour nos grands-parents, pour les vieux de notre société. Il y a un vrai manque de rationalité par rapport à ça. Ce sont ces gens-là qui nous ont éduqués, qui nous ont tout appris, et la société les rejette à partir d'un certain âge. Et ça, c'est quelque chose qui me choque. Dans les cultures orientales ou africaines, il n'y a pas ça. Et je pense qu'il y a une tendance, si vous voulez, au manque de dialogue, au manque de compréhension. Et quelque part, la culture de l'improvisation peut nous aider à apprendre à nous adapter aux choses, à nous adapter au monde, à nous adapter à l'autre, à celui qu'on ne comprend plus, à celui qui est différent.
Ibrahim Malouf, le Liban, pays d'origine de votre famille, est actuellement en grande difficulté économique, politique et sociale, on le sait. Quel lien conservez-vous avec lui et surtout, quel regard portez-vous sur la situation actuelle ?
J'ai un lien très fort, hein, parce que je suis toujours très très lié au Liban. J'ai une énorme partie de ma famille qui vit là-bas. J'y vais de manière très très régulière. Puis voilà, avec la crise du Liban aujourd'hui, c'est sidérant. Voilà, c'est sidérant, c'est traumatisant pour tout le monde. On se demande comment ce pays va réussir à se remettre sur ses pieds. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir, donc je reste très optimiste.
De quelle façon pourrait-on aider le Liban pour vous ? Question difficile, j'imagine.
C'est une question très difficile, évidemment. Je pense qu'il y a une forme d'indifférence vis-à-vis du Liban depuis quelque temps dans la communauté internationale. C'est-à-dire, on dit « Ah oui, oh le Liban, le taboulé, ah oui, la plage, ah oui, le souvenir de ce pays qui était la Suisse du Moyen-Orient, etc. » Mais d'un autre côté, il y a une forme d'indifférence assez notable et assez flagrante de la part de toute la communauté internationale. Il n'y a pas de mouvement véritable, je parle politique et géopolitique, Je parle pas humain. Humain, évidemment. Moi, j'ai moi-même organisé il y a quelques mois un concert pour une levée de fonds, alors qu'on était en pleine crise en France avec le Covid, avec on venait de sortir des gilets jaunes, etc. Il y avait toute une histoire, une crise assez importante en France. Et malgré tout, on a fait un concert avec plein d'artistes français et libanais sur la scène de l'Olympia, qui a été diffusé sur France Télévisions. Nous avons réussi à lever plus de 2 millions d'euros, ce qui est absolument génial. Et donc, je pense que humainement, les gens sont très sensibles. Le monde est très, très sensible et a été sensibilisé à la crise qui se passe au Liban. Mais d'un point de vue politique, géopolitique, je crois véritablement que l'Europe, comme les États-Unis, comme les grandes puissances mondiales, ont vraiment laissé tomber le Liban. Et ça, c'est quelque chose qui m'exaspère, en fait. Parce que c'est un pays qui joue un rôle fondamental, ne serait-ce que par sa position géographique, qui est un pays qui a donné l'exemple, qui a essayé de donner un exemple et qu'on n'a jamais soutenu vraiment, qui est l'exemple de la vie en communauté, malgré 17 communautés différentes. Le Liban se débrouillait très bien dans cette vie communautaire sans communautarisme, justement, et était un magnifique exemple de vie sociale épanouie avec ses différences de communauté. Et le jour où le Liban trébuche et tombe à cause de la corruption, à cause du vol, à cause de beaucoup de choses, eh ben on l'a regardé tomber. Finalement, on n'a pas vraiment aidé le Liban. Le Liban a besoin d'être beaucoup plus aidé. Et ce n'est pas les 4-5 millions de Libanais qui vivent au Liban qui vont réussir à faire en sorte que le Liban se relève. C'est beaucoup plus gros. Il y a beaucoup trop d'intérêts régionaux qui font que les Libanais ne peuvent évidemment pas se débrouiller tout seuls. Donc c'est cette indifférence-là qui me choque.
Justement, les jeunes qui manifestent depuis, les jeunes Libanais depuis octobre 2019, qui veulent être simplement des citoyens libanais, indépendamment des religions, des ethnies, etc. Est-ce que ce combat-là vous paraît permettre au Liban de sortir de la crise un jour ?
Moi, j'y croyais évidemment. Je croyais vraiment que c'était quelque chose qui pouvait agir. Mais comme dans toutes les crises au monde, lorsque vous avez un peuple qui se lève contre son pouvoir, il y a des pays qui viennent et qui soutiennent cet engagement-là. Le peuple tout seul ne peut pas, ou alors c'est la Révolution française, on revient à 1789. On ne va pas sortir les guillotines dans la rue pour faire tomber les politiciens. Il y a un moment où il faut qu'il y ait des puissances extérieures qui viennent et qui mettent des bâtons dans les roues de ces corrompus pour les faire tomber. Et donc le peuple libanais ne peut pas lui-même aller et se rendre justice à soi-même tout seul. C'est absurde. Ou alors c'est qu'on cherche à diviser le pays si on le laisse se morfondre de cette manière-là. Et donc c'est terrible de ne pas avoir soutenu la révolution libanaise. Il aurait fallu venir et encourager et aider et soutenir et faire pression, etc. etc. Mais je pense que très très peu de puissances dans le monde veulent venir se frotter à la problématique du Liban parce qu'elle est énorme.
Merci Ibrahim Malouf.
Merci à vous. Merci beaucoup.
À lire votre petite philosophie de l'improvisation aux éditions Équateur et à écouter également votre dernier enregistrement, First Noël, un album musical consacré au chant de Noël, dont voici un extrait. Orient Hebdo, chaque samedi et chaque dimanche sur RFI à 19h40 temps universel, 20h40 à Paris. Passez une bonne semaine, fidèle à la Radio Mondiale. Dans un instant, le journal.
Musique du monde.